tout de suite le journal avec Anaïs Feuga. Bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est le mariage qui scandalise en pleine pandémie. 300 convives aux noces du vice-président polynésien alors que la crise sanitaire frappe comme jamais ce territoire français. 2600 cas de Covid pour 100 000 habitants, on vous raconte. Dans le Var, situation encore très instable sur le front de l'incendie. Le vent revient. Les enquêteurs recherchent à savoir si le feu parti lundi est accidentel ou criminel. Les explications dans ce journal. Des scènes bouleversantes à l'aéroport de Kaboul, toujours pris d'assaut par des civils entassés au pied des murs d'enceinte gardés par des militaires. Les évacuations se poursuivent. Une centaine d'Afghans attendus aujourd'hui à Paris dans un troisième vol. Depuis fin juillet, les Américains ont évacué 12 000 personnes. Dans ce journal aussi, le ministre de l'Éducation nationale sommet de clarifier la rentrée scolaire. Et le Liban, touché par la pénurie d'essence. Bonsoir Éric Dalvaux.
Bonsoir Anaïs.
Et au téléphone sonne ce soir.
L'éco-anxiété, c'est une des conséquences du dérèglement climatique et des images impressionnantes diffusées chaque jour. L'éco-anxiété, l'inquiétude liée à la crise climatique, les jeunes principalement concernés. Vos témoignages, vos questions sur l'éco-anxiété, c'est maintenant 01 45 24 7000.
À tout à l'heure, juste après le journal.
France Inter.
Les rêves partis en pleine France confinée avaient choqué. À l'autre bout de la terre, c'est un mariage VIP qui ébranle la population. Celui du vice-président polynésien, célébré en grande pompe le 5 août dernier. Et pourtant, la Polynésie est actuellement le territoire français le plus touché par le Covid-19, plus encore que les Antilles, avec un taux d'incidence qui a dépassé les 2600 cas pour 100 000 habitants. À partir de demain soir, le confinement est étendu à tout le week-end sur les 5 principales îles de l'archipel. Les écoles ont fermé, l'hôpital est saturé. Alors, ce mariage a entamé la confiance de la population dans ses autorités. C'est Faustine Calmel qui nous raconte l'histoire.
C'est dans un restaurant en bord de mer que les mariés reçoivent. Plus de 300 convives, alors que depuis une semaine, les événements festifs sont interdits pour éviter la propagation de l'épidémie. La journaliste Vaïté Ouraï Pembrun est sur place. Elle filme en direct sur Facebook.
Nous sommes au mariage où à peu près tout le gouvernement est là, chez les amis internautes, comme vous pouvez le voir.
D'autres vidéos montrent le président de la Polynésie jouer de la guitare, des convives danser. Orchestres et animations musicales sont pourtant proscrits. Vaïté Ouraï Pembrun dénonce des passe-droits.
Ils font partie du gouvernement et donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Pour moi, ça ne se passe pas comme ça. J'ai juste fait pour informer qu'ils bafouaient complètement ce qu'eux-mêmes mettent en place.
Aucun des politiques présents que nous avons contactés n'a souhaité répondre, mais certains, comme le député Moeta Brotherson, se sont excusés ici sur Facebook.
D'y aller, c'était une grosse connerie. Je demande donc sincèrement pardon aux Polynésiens que ça a choqué.
Pas de quoi éteindre la polémique, d'autant que la journaliste s'estime menacée après des propos du président le soir de la fête.
Il dit en tahitien, il y a la journaliste, si vous sortez et que vous la voyez, atarotorototimiti. Jetez-la à la mer.
Référence à Jean-Pascal Courreau, ce journaliste disparu à Tahiti il y a 24 ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Et selon les derniers chiffres, ce soir, toujours plus de 2000 malades au total sont en soins critiques en France. Entre mercredi et jeudi, 127 personnes sont mortes du Covid-19 dans les hôpitaux. Une étude britannique aujourd'hui révèle que le vaccin de Pfizer-BioNTech est plus efficace pour lutter contre les infections liées au variant Delta que l'AstraZeneca. Mais l'efficacité décline plus rapidement chez Pfizer. Les chercheurs ont étudié les prélèvements sur plus de 700 000 participants. En gros, après 4 à 5 mois, le niveau de protection de ces deux vaccins devient similaire. L'efficacité des vaccins reste, soulignent les chercheurs, très élevée. La course contre le temps des pompiers dans le Var. Noyer au maximum les lisières des forêts avant la tombée de la nuit pour endiguer l'incendie d'ici à la fin de la journée. Déjà plus de 8000 hectares ont été parcourus par le feu et la situation reste imprévisible selon le préfet du Var, Evance Richard.
Une situation encore très instable sur le nord de la zone concernée par l'incendie puisque pendant cet après-midi, vous avez vu se développer plusieurs départs de feu, dont certains donc relativement violents. Donc ça nous montre bien que la situation n'est pas encore totalement maîtrisée, même si sur le sud, un certain nombre de progrès ont été enregistrés. D'autant qu'à partir de demain midi, donc on nous annonce la réapparition d'un vent et d'un vent tournant, ce qui risque de compliquer extraordinairement donc les opérations et peut-être de générer de multiples départs de feu.
Le préfet du Var avec Nina Valette cet après-midi. 1200 pompiers mobilisés sur ce plus grand incendie de l'été qui serait parti lundi en fin d'après-midi depuis une aire d'autoroute de l'A57 au nord de Toulon. intervention humaine ou combustion spontanée. Les experts de la police scientifique sont appelés à examiner les lieux une fois que l'incendie sera éteint. Ariane Grissel, vous êtes avec nous. Il s'agit en fait de récolter un maximum d'indices.
Et oui, première étape pour ces enquêteurs, retrouver l'endroit d'où est parti le feu. C'est en général là où les dégâts sont les plus importants. André Zara est responsable de la section incendie et explosion au laboratoire de police scientifique de Marseille.
Le principe, c'est donc de trouver la zone où s'est déclaré l'incendie pour faire des constatations, des prélèvements, en vue notamment de la recherche de substances inflammables ou éventuellement de l'ADN, de la recherche de traces papillaires, etc.
Alors, traces papillaires, hein, c'est ce qu'on appelle généralement les empreintes. Ensuite, tout est balisé, comme sur une scène de crime classique, sous l'œil d'un officier de police judiciaire, d'un représentant de l'Office national des forêts et de sapeurs-pompiers. Mais il faut aller au-delà de la seule analyse du lieu d'où est parti le feu. André Zara.
Les constatations s'appuient énormément sur les témoignages. À quel endroit sont apparues les premières fumées, ne serait-ce que le nombre de départs de feu. S'ils sont à proximité d'une route, ça peut émettre certaines hypothèses.
La moindre brindille et surtout sa combustion peut livrer des informations. En réalité, la question est surtout de savoir si l'incendie est volontaire ou dû à une imprudence, puisque l'origine, elle, fait peu de doutes. Dans 90% des feux de forêt, c'est bien une intervention humaine qui explique le départ de feu.
Ariane Grissel et la gendarmerie du Var lancent ce soir sur son compte Twitter un appel à témoins pour déterminer les circonstances du départ de cet incendie. La désolation dans la cité des Marronniers à Marseille, dans l'un des quartiers les plus déshérités de la ville. Un adolescent de 14 ans a été tué par balle la nuit dernière, un autre blessé ainsi qu'un petit garçon de 8 ans dans des circonstances encore floues. La victime, sans antécédent judiciaire, a été touchée par des tirs de Kalachnikov tirés par un commando à scooter près d'un point de deal. 8 munitions ont été saisies sur place. Une information judiciaire a été ouverte hier à Tours après le décès la semaine dernière d'une femme de 44 ans. Elle participait à un stage de naturopathie au château de Brou. 42 jours de jeûne hydrique, on ne mange pas, on ne boit que de l'eau. Ce sont les autres participants qui ont donné l'alerte et l'un d'entre eux, François Desplan, dénonce l'absence de suivi.
Ces cures de jeûne, il les pratique régulièrement, mais sur quelques jours seulement. Le faire sur plus d'un mois, là c'est une première pour lui. Si les journées sont bien rythmées, les activités comme le yoga, la méditation, l'art-thérapie bien encadrées, pour le jeûne et ses conséquences sur la santé, là c'est beaucoup plus délicat. C'est même dangereux, dit-il. Pour le suivi médical, les curistes seraient livrés à eux-mêmes pour prendre leur tension, surveiller leur perte de poids. Rien n'est consigné par écrit. Au bout de plusieurs semaines de privation, certains restent de longues heures au lit sans jamais recevoir la visite des organisateurs. Toujours selon le même témoin, des curistes auraient même pris leur propre voiture pour transporter à l'hôpital un des leurs qui avait besoin de soins. Après le décès de cette femme de 44 ans, constatée jeudi dernier, le stage ne s'arrête pas pour autant. Les participants veulent tous continuer. Trop d'argent dépensé. Pour la plupart, la facture dépasse les 3000 euros. Trop d'espoir aussi. L'espoir de guérir d'un cancer ou d'une maladie chronique.
Une rentrée scolaire aussi normale que possible. Des écoles, des collèges, des lycées ouverts selon les mêmes règles que l'an dernier. Jean-Michel Blanquer, à 2 semaines de la reprise de l'école, veut rassurer. Ce matin, en déplacement à Châtenay-Malabry, le ministre de l'Éducation nationale a assuré qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire ni de vaccination obligatoire pour les enfants. Petite mise au point avant sa conférence de rentrée la semaine prochaine. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Il faut dire que si le ministre a bousculé son agenda aujourd'hui, c'est sous la pression du chef de l'État.
Personne n'a compris ce qui allait se passer à la rentrée en matière sanitaire. C'est la mise au point en effet d'Emmanuel Macron la semaine dernière en Conseil de défense. Un petit coup de griffe rapporté par le Canard enchaîné et que l'Élysée ne dément pas. Oui, Jean-Michel Blanquer a été mis sous pression, nous confirme un conseiller de l'exécutif. Il faut dire que les récentes maladresses du ministre n'ont pas plu du tout au sommet de l'État. Fin juillet, il expliquait que les collégiens et lycéens non vaccinés seraient évincer s'ils sont cas contact ou comment brouiller tout le message en un seul mot. Jean-Michel Blanquer est donc prié de rectifier le tir et sans crisper cette fois. Quel sera le protocole retenu? Quels moyens seront déployés pour les tests et pour la vaccination? Le ministre de l'Éducation promet de répondre à toutes les inquiétudes dans quelques jours. Sa conférence de presse de rentrée est prévue jeudi prochain. Dérapage interdit, même si, au fond, Jean-Michel Blanquer sait pertinemment qu'il a toutes les chances de finir le quinquennat rue de Grenelle.
Et des scientifiques s'alarment aujourd'hui de la contagiosité du variant Delta et de la rentrée scolaire. Ils demandent des actions plus efficaces pour protéger les enfants. enfants. France Inter, il est 19h10. Ils sont toujours des milliers à converger vers l'aéroport de Kaboul. Des milliers d'Afghans effrayés par le régime que les talibans vont mettre en place. Les civils sont bloqués devant les murs de béton de l'aéroport. Des informations non confirmées pour l'instant font état de plusieurs morts dans des bousculades depuis dimanche. Bertrand Galichet, on assiste à des scènes de désespoir à cet aéroport.
Des milliers d'Afghans désespérés, prêts à tout pour accéder au tarmac de l'aéroport et fuir le pays. Une foule piégée entre les points de contrôle des talibans et les barbelés installés par l'armée américaine. Certains Afghans brandissent des documents fournis par les ambassades occidentales, mais ne peuvent pas approcher. Les réseaux sociaux montrent des images de civils tentant de passer par-dessus l'enceinte de l'aéroport, parfois aidés par les soldats américains. Une petite fille qui semble avoir 2 ans, a été hissé en haut d'un mur et confié à un militaire qui la réceptionne. Nombre d'ambassades étrangères ont négocié avec les talibans l'organisation de convois vers l'aéroport, destinés à leur personnel et à une partie des employés afghans. Pour les autres candidats au départ, le trajet est long et risqué car les islamistes filtrent la foule et en empêchent une grande partie d'atteindre l'aéroport, comme le déplore à Washington le département d'État qui rappelle en vain les engagements de libre circulation pris par les talibans. Dans le quartier des ambassades, où beaucoup de bâtiments sont maintenant désertés, des milliers d'Afghans tentent d'attirer l'attention en criant dans l'espoir d'obtenir un sauf-conduit pour accéder à l'aéroport.
Et les ministres des Affaires étrangères du G7 réclament aux talibans de garantir la sécurité des étrangers et des Afghans qui veulent quitter le pays. Une présentatrice de la télévision publique afghane a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle avait été interdite de travailler. Un collectif d'élus de gauche plaide pour un accueil digne des Afghans en France. Le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, souhaite lui aussi que sa ville participe à l'accueil de ces réfugiés afghans. C'est l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. La crise traversée actuellement par le Liban, qui a fait plonger en quelques mois 80% de sa population sous le seuil de pauvreté, contre 30% avant la crise. Plus de médicaments dans les hôpitaux, 22 heures de panne de courant par jour, les prix des denrées alimentaires qui explosent et les pénuries qui s'installent. Celles de carburant, les stations-service sont prises d'assaut. Et aujourd'hui, c'est le chef du Hezbollah qui annonce qu'un bateau iranien chargé de mazout va appareiller en direction du Liban, ce qui fait polémique à Beyrouth. Laure Stéphane.
Hassan Nasrallah a assuré ce matin concrétiser une promesse ancienne, celle de faire appel à son parrain, l'Iran, pour approvisionner le Liban en carburant. Selon les propos du chef du Hezbollah, le départ d'un navire chargé de mazout depuis les côtes iraniennes était imminent ce matin. Des propos qui galvanisent ses partisans. Sur la ligne de la formation, ils estiment que la crise économique en cours est un siège imposé par les Américains. Mais la venue d'un navire iranien provoque un tollé parmi les adversaires du Hezbollah. Une démarche dangereuse qui risque d'entraîner le Liban dans une confrontation avec la communauté internationale, selon l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Hassan Nasrallah a mis en garde américains et israéliens contre une interception du navire. Côté officiel libanais, c'est le mutisme. Le président Michel Aoun, allié du Hezbollah, a par contre affirmé avoir reçu des assurances de l'ambassadrice américaine au Liban pour faciliter l'alimentation du pays en électricité via la Jordanie. Aucun détail n'a été livré sur le point d'entrée du bateau iranien ni sur qui réglerait la facture. Si le Liban achetait du pétrole iranien, il s'exposerait à des sanctions alors que les exportations de Téhéran sont sous embargo américain. En pleine pénurie, la polémique promet de gonfler. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Une intervention policière en cours aux États-Unis près du Capitole à Washington. Un véhicule près de la bibliothèque du Congrès soupçonné de contenir des explosifs. Le Congrès n'est pas en séance cette semaine, ce sont les vacances parlementaires. Au Royaume-Uni, le double impact du Brexit et de la pandémie prive les Britanniques de poulet. Ce ne sont pas les volailles qui manquent, mais les bras pour faire tourner la filière. 16% des emplois seraient vacants. Résultat, Maxence Peignet, certains restaurants sont à l'arrêt.
Le déconfinement ne se passe pas tout à fait comme prévu pour la célèbre chaîne de restauration Nando's. Elle a dû se résoudre à fermer temporairement 45 de ses restaurants en Grande-Bretagne. Non pas par absence de clients, mais par manque de poulet. Car sa chaîne d'approvisionnement est frappée par un déficit de main-d'œuvre. Il y a d'une part les salariés à l'isolement, car cas contact, mais aussi les travailleurs européens ayant quitté le pays durant la pandémie et à la suite du Brexit. Il pourrait être jusqu'à 1 300 000 selon les estimations. Il laisse des places vacantes dans les abattoirs, mais aussi sur les routes, puisqu'il manquerait désormais 100 000 chauffeurs routiers au Royaume-Uni. Au-delà de la volaille, c'est d'ailleurs toute l'industrie agroalimentaire qui se plaint de pénurie. Bonne nouvelle cependant, depuis cette semaine, les cas contacts vaccinés n'ont plus à s'isoler, ce qui devrait quelque peu réduire la pression sur les entreprises. Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Le festival We Love Green, annulé à Paris, il était prévu du 10 au 12 septembre. Les conditions sanitaires, artistiques, financières ne sont plus réunies, disent les organisateurs. Et puis le décès à 86 ans du peintre, sculpteur et académicien Guy de Rougemont, géomètre de la couleur, à la fois peintre abstrait et auteur de sculptures monumentales comme les cylindres du parc métropolitain de Quito, en Équateur, ou plus près de chez nous, les 30 km de l'autoroute A4, rythmée de formes géométriques et colorées. Le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et on rejoint Météo France Jean-Pierre Hameau, plus ensoleillé demain sauf pour le Nord-Ouest.
Effectivement Anaïs, n'attendez pas d'amélioration entre la Bretagne, la Mayenne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. L'ambiance restera nuageuse et humide. En revanche, l'ensoleillement sera généreux sur une grande moitié sud du pays. Les éclaircies seront au fil des heures de plus en plus larges du pays nantais à la région centre et de l'Île-de-France à la région Grand Est. À noter des averses orageuses sur la montagne Corse tout au long de la journée. Et puis côté température, les maximales seront toujours trop justes pour la saison en bordure de Manche. N'attendez pas plus de 21 degrés à Dunkerque, Cherbourg et Brest, 22 à Dinard, 23 à Saint-Malo. Elles seront plus chaudes, voire estivales ailleurs. Prévoyez 26 à Paris comme à Tours, Châteauroux et Strasbourg, 27 à Vichy et Chambéry, 28 à Bordeaux et Lyon. Comptez 29 à Pau, 30 à Béziers, 31 à Marseille et 32 à Avignon, où l'on pourra danser.
Eh bien, on va en profiter. Merci Jean-Pierre Hameau.